suis en 5e 8 et je vais vous lire un extrait de L'île au trésor de Stevenson. Je le vois parcourir la crique du regard tout en sifflotant, puis, tout à coup, entonner cette vieille rengaine de matelot que par la suite nous devions si souvent entendre.
Nous étions 15 sur le coffre à la mort. Ya ha ha, une bouteille de rhum. La boisson et le diable ont emporté les autres. Ya ha ha, une bouteille de rhum.
D'une voix aiguë et chevrotante qui semblait avoir été rythmée et brisée par les manœuvres. Ensuite, il frappa à la porte avec un bâton qui était comme un lance-pé et, quand mon père apparut, d'un ton brusque, il commanda un verre de rhum. Il le but posément et le dégusta en connaisseur, sans cesser d'examiner tour à tour les falaises et notre enseigne.
« C'est une bonne crique, »
dit-il enfin.
« Et l'auberge est bien située. Beaucoup de monde, camarade ?»
Mon père lui répondit qu'il avait très peu de clients et qu'il le regrettait.
« Tant mieux, »
dit l'autre.
« C'est le bercail qu'il me faut. Ouais, ami »
cria-t-il à l'homme qui y poussait la brouette.
« Accostez ici et montez mon coffre. Je vais rester ici un moment, »
continua-t-il.
« Je ne suis pas difficile. Du rhum et des olards, c'est tout ce que je demande. Et il se poste là-haut pour surveiller les navires au large.
Comment allez-vous m'appeler? Vous pourriez m'appeler capitaine, hein? Ah, je vois ce qui vous inquiète. Il jeta 3 ou 4 pièces d'or sur le comptoir.
Vous me préviendrez quand j'aurai dépensé ça,
dit-il, l'air aussi méprisant qu'un amiral. Et à vrai dire, si sales que fussent ses vêtements et si rude que fût son langage, il ne donnait pas l'impression d'être un simple matelot. Et un maître, qui ne souffre pas la désobéissance. L'homme qui avait roulé la brouette nous dit que la malle-poste l'avait déposée la veille au matin au Royal George et qu'il s'était informé des auberges situées le long de la côte. J'imagine qu'il avait choisi la nôtre comme lieu de résidence parce qu'il y avait entendu dire qu'on y était bien et qu'elle était isolée. Et c'est tout ce que nous pûmes savoir sur notre hôte. C'était un homme habituellement très taciturne. Le jour, il errait autour de la baie ou sur les falaises, muni d'une lunette d'approche en cuivre. Le soir, il s'asseyait dans un coin de la salle, près du feu, et buvait des grogs très forts. La plupart du temps, il ne répondait pas quand on lui adressait la parole, mais vous regardait brusquement, d'un air féroce, et soufflait dans son nez comme dans une trompe par tant de brume. Aussi, tout comme les gens qui venaient chez nous apprîmes bientôt à le laisser tranquille.
Je m'appelle Jeanne de la classe 5e 8. Je vais vous lire un extrait d'un livre appelé L'école perdue, écrit par Tahar Benjelloun. La première leçon. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un enfant qui aurait pu être là, avec nous, dans cette école. Un enfant qui est devenu un héros des temps modernes. Un petit bonhomme, haut comme 3 oranges, avec des yeux vifs et une intelligence remarquable. C'est un enfant qui venait d'un pays pauvre, le Pakistan, un pays qui se trouve à la frontière de l'Inde, un enfant à qui on a volé son enfance, un grand homme, né en 1983. Son nom est Iqbal. Il n'avait que 4 ans quand ses parents l'ont vendu à un fabricant de tapis. 4 ans et déjà une bouche de moins à nourrir pour sa famille. Il travaillait dans un atelier pour un marchand de tapis. Ne voyait jamais le jour, jamais la lumière du ciel. Au milieu de la nuit, il partait à l'usine et n'en sortait que bien après le coucher du soleil. Iqbal n'était pas seul. Au contraire, ils étaient des milliers de petits Pakistanais à tisser des tapis. De beaux tapis aux couleurs chatoyantes et aux dessins magnifiques. Des tapis prêts à orner les maisons et à faire rêver tous les enfants du monde. Le travail était tellement dur qu'Iqbal avait tout le temps. Mal aux poignets, mal aux chevilles, mal aux yeux. Mais il ne se plaignait jamais. Il souffrait en silence. Savez-vous ce que c'était ? C'était du travail forcé, de l'esclavage. Car l'enfant avait aucun droit. Pas le droit de se lever, pas le droit de parler, pas le droit de lever les yeux, pas le droit de s'étirer, pas le droit de tendre les jambes, pas le droit de se gratter la tête, pas le droit de vivre. Ni son corps, ni sa vie, ni ses rêves ne lui appartenaient, parce que ses parents l'avaient vendu contre un peu d'argent. Il avait fait le cœur serré, la tête baissée,